Radio Capi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Capi intitulée Regard sur la prochaine la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la prochaine la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue la prochaine la semaine, nous recevons ici au studio Dieudonné Moussa Galoussa, il est coordonnateur national du panel des experts de la société civile et porte-parole du consortium des ONG des droits de l'homme en RDC. Bonjour Dieudonné Moussa Galoussa.
Bonjour mon frère Guy Maté, je suis content de retrouver ces bons micros de Radio Capi.
Merci. Ici au studio également, Bernadette Kamango, elle est journaliste indépendante, elle est défenseuse des droits des femmes, elle est également autrice d'ouvrages sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Bonjour Madame Bernadette Kamango.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi et surtout à vous, Guy Maté.
Merci. En ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Hubert Leclerc, il est journaliste au journal La Libre Belgique. Bonjour Hubert Leclerc.
Bonjour Guy Maté, bonjour à tous.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de ces derniers jours de la semaine.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiocapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiocapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Nous sommes dans Regard sur la totale de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Dieudonné Moussa Galoussa, il est coordonnateur national du panel des experts de la société civile et porte-parole du consortium des ONG des droits de l'homme en RDC. Madame Bernadette Kamango, elle est journaliste indépendante, elle est défenseuse des droits des femmes, elle est également autrice d'ouvrages sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Hubert Leclerc, il est journaliste au journal La Libre Belgique. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir l'A1 de l'occupation de la ville de Goma par la rébellion de la FCM-23, tragédie en Ngiringiri, plusieurs personnes interpellées après l'assassinat par arme blanche d'un élève de 16 ans de l'école Ange Raphaël, et enfin crise en RDC, le dialogue comme voie royale pour sa résolution. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la conférence sur les investissements. En effet, une conférence consacrée à la préparation à l'investissement s'est tenue mercredi 28 janvier à Kinshasa avec une ambition claire: attirer davantage d'investisseurs et mieux outiller les entreprises congolaises pour accéder au financement. L'initiative est pilotée par l'organisation américaine Congo River Capital, CORICAP en sigle, avec le soutien de l'ambassade des États-Unis. Pour les organisateurs, un pays comme la RDC qui veut se développer a besoin d'investisseurs et de capitaux. Or, en 2024, par exemple, le pays de Lumumba n'a capté que 0,2% de tous les capitaux risques dirigés vers le continent africain. C'est ainsi que les organisateurs se fixent pour objectif, avec les entrepreneurs congolais, de changer la situation et de combler cet écart de financement. Les participants, en majorité des responsables d'entreprises et des banques, ont salué cette initiative qui consiste à orienter les entreprises congolaises à saisir les opportunités qui leur sont offertes. À travers cette conférence, les États-Unis et les entrepreneurs congolais réaffirment leur engagement à promouvoir le développement économique de la République démocratique du Congo. Dieudonné Moussa Galoussa, comment vous appréciez cette initiative qui consiste à attirer les investisseurs en RDC et à former les entreprises congolaises à accéder au financement?
Bon, personnellement, je ne peux qu'encourager des initiatives pareilles, d'autant plus que ça sera un plus qui va revenir au pays. Et donc, il est important qu'on puisse encourager, qu'on puisse soutenir cela, tant que ça peut contribuer non seulement à améliorer les conditions de vie de la population, mais à booster également l'économie du pays. Cependant, il faut constater que Vous venez de le dire d'ailleurs qu'on a pu capter un chiffre vraiment léger, 0,2%. Donc ça prouve à suffisance que jusqu'à présent, le système congolais en termes de motivation, en termes d'encouragement, en termes de facilitation, en termes d'engouement des entreprises et des investisseurs étrangers est faible. Et donc et je pense que cela peut se justifier. Nous, vous savez, nous sommes au niveau des droits de l'homme dans les monitoring de toutes les violations, que ce soit sur les droits politiques, sur les droits économiques et tout ce qui s'en suivent. Donc il est clair et net qu'avec ce que nous subissons en termes de quotas, en termes de cautions, en termes de frais à payer, en termes de taxes, en termes de multiplicité, en termes de tracasseries, en termes de formalités, en termes même, il faut dire, des difficultés de pouvoir investir dans la transparence et surtout la garantie de ceux qui vont investir dans les pays. Est-ce que aujourd'hui ils peuvent investir, demain on va amener tel dossier ou tel autre? Donc je crois qu'il est important, au-delà du soutien, au-delà de l'encouragement, au-delà de la volonté, mais qu'on puisse assainir toutes les procédures, qu'on puisse faciliter, qu'on puisse avoir la transparence, puisque dans d'autres pays, quand vous visitez d'autres pays, un investisseur qui vient au pays, on le facilite, mais ici, quelqu'un peut vouloir venir investir, quelqu'un peut vouloir faire une entreprise en venant de l'extérieur, on va d'abord lui faire des tracasseries, il faut autant de papiers, il faut autant d'argent qu'il faut payer, alors que c'est quelqu'un qui vient avec les capitaux frais. Et donc, nous pensons que la RDC, au-delà de la volonté et de tout ce qu'on a mis en place comme mécanisme et de tout ce que nous avons comme instrument sur ces points, mais il faut qu'il y ait une pratique d'assainissement, il faut qu'il y ait moins de tracasseries, il faut qu'il y ait plus de facilité, ce qui va permettre à ce que les investisseurs étrangers puissent venir. Et si les États-Unis ont pris cela, je pense qu'effectivement ça rentre dans le cadre des accords de Washington où ils veulent déjà déblayer les terrains pour les entreprises qui veulent venir, et donc j'encourage. Mais cependant, il faut regretter toutes les tracasseries, la multiplicité des taxes, les frais qu'il faut payer, et surtout des commissions que les gens demandent. Quelqu'un qui veut venir investir avec autant de millions, lui dit, bon, oui, mais 10%, quelle est ma part? Et généralement, selon ce que nous entendons, c'est tel ministre, c'est telle entreprise qui veut se trouver avec autant de pourcentages alors qu'il n'a rien investi. Et donc ça décourage. Ce sont des pratiques vraiment que nous dénonçons.
Merci.
Oui.
Madame Bernadette Kamango, c'est vrai que les partenaires nous préparent, n'est-ce pas, à accéder aux investissements, mais quelle devrait être la part de la RDC pour effectivement attirer les investisseurs dans ces pays?
Bon, d'abord, ce que moi je pense, quand on parle investissement, il faut d'abord effectivement assainir le climat des affaires, ça c'est déjà un point. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont quand même faits, parce que nous avons des structures comme la NAPI, l'Agence nationale de promotion des investissements, qui est là, qui en principe assiste effectivement tous les entrepreneurs, que ce soit les entrepreneurs locaux ou étrangers, de pouvoir investir. Mais on constate toujours des pesanteurs en matière d'investissement. C'est comme Dieudonné vient de le dire ici, surtout les fameux systèmes des 10%. Moi, je peux donner par exemple un exemple. Il y a, je crois, quelques années, il y a des Brésiliens qui m'avaient contacté pour venir. Vraiment, ils sont venus avec l'argent, comme on peut dire, l'argent entre les mains, l'argent frais pour investir. Mais ils ont dû partir avec beaucoup de regrets et aller investir en Angola, tout simplement parce que c'était des systèmes de commission à gauche, commission à droite. Or, il faut comprendre que l'investisseur étranger, quand il vient avec ça, il n'a pas cette mentalité-là, il ne connaît pas ça. Pour lui, donc, quand vous lui demandez des commissions, vous le mettez dans la corruption. La corruption et tout ce qu'il faut, et tout ce qui tourne autour de la corruption. Et quelqu'un qui ne travaille pas dans cette mentalité, c'est impossible qu'il puisse accepter ces conditions. Et peut-être les quelques deniers qu'on pouvait faire entrer dans le trésor public avec des impôts ou d'autres taxes, ça file ailleurs. Et non seulement ça, je peux retenir aussi que nous avons beaucoup d'entrepreneurs locaux aussi. Quand on parle d'investissement, il ne faut pas seulement penser aux investissements étrangers, nous avons aussi les locaux. qui font de, beaucoup de bonnes choses et qui sont aussi à la traîne tout simplement parce qu'ils sont butés à quelques problèmes d'abord financiers, surtout en ce qui concerne les certifications de conformité, la normalisation. Moi, je suis dans l'entrepreneuriat hein, et puis je peux vous dire que par exemple, quand il faut certifier ne fût-ce qu'un produit, j'étais dernièrement, comme je suis dans le cosmétique naturel, donc je me suis dirigée du côté du ministère de la Santé, puisque par rapport à mon produit, donc ça demande un peu quelques critères, mais c'est pas moins de $1,000 quand je fais le
calcul.
C'est
un seul produit.
Un seul produit, s'il vous plaît. Et maintenant, quand vous avez une gamme de produits, donc imaginez-vous. Alors, il faut vraiment beaucoup plus de facilitation pour permettre, et ça, c'était juste pour mettre le produit donc en mise en marché. Donc il faudrait vraiment un peu plus d'assainissement de ce climat des affaires. Et la troisième chose que je peux retenir, c'est qu'on est aussi dans un pays où il y a des bruits de bottes. Or, comme on dit, l'argent n'aime pas les bruits de bottes. Donc c'est une façon de pouvoir encore dire que la paix doit revenir au pays parce que l'argent aime la paix.
Merci Hubert Leclerc. Il est dit qu'en 2024, que la RDC n'a capté que 0,2% de tous les capitaux risques dirigés vers le continent africain. Comment vous réagissez à cela?
Écoutez, je vais embrayer sur ce qui a été dit jusqu'à présent. Je me souviens du dernier rapport qui avait été remis par l'ONG Transparency International, qui doit sortir d'ailleurs son prochain rapport en général, c'est début février qu'ils sortent leur rapport annuel. Donc leur dernier rapport qui est sorti en 2025 sur les tendances 2024, et là on voyait que le Congo était 163e sur 180 États en termes de perception de la corruption. Ce qui veut dire que pour les gens qui ont été interrogés, le Congo, la RDC, est un pays qui est, ben, il faut rappeler les choses par leur nom, c'est un pays qui est corrompu. Et donc quand vous avez une étiquette comme celle-là, vous pouvez faire toutes les messes, les grandes messes possibles et imaginables pour tenter d'appâter les investisseurs, mais l'image de marque, elle est catastrophique. Et ce chiffre, il est là depuis des années. C'est pas une chute brutale en 2024 qu'il y a eu. Donc on voit qu'en 2023, c'est la même chose, 2022, c'est la même chose. Et on peut être un petit peu satisfait, parce qu'en 2021, c'était un peu pire encore, puisque là, aujourd'hui, ils ont 20 sur 100, le pays a 20 sur 100, en termes d'indice de la corruption. Donc plus vous êtes près du 100, mieux c'est, plus vous êtes plus bas, pire c'est. Et en 2021, ils étaient à 19. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu une petite amélioration en 2022, mais depuis lors, la situation est toujours la même et le pays est considéré comme un des pays les plus corrompus du monde.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Julia. Julia, cette composition de Luciana Di Mungongo, et on se retrouve juste après.
Mama, Mama, Luciana, mama, 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 mama,
você canta isso, mas o mundo.
Mama, 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 você me pede de café, mas que não se calou que nem como camo não é nada pisolite. Okando ki bafada moto malamwa sanga kateo Oh ma, unanyamu nisulia Mariamu, yalata mwese tukumibale na moto Yayatawa mbanda mokili na makolo Lokola maria mama wabasatu Lokola maria mama na yesu kristu Samba pensando em motema e a bolinha. Eu sou um boi salam.
ma bona biso ke ba to ya boye mami zale di mama amona mon pona yo anawa chéri foso pona yo pase kimba ma julia princesse ya kaya kaya motema boyanga ke bolokeo Na yunga na koma mbola yo bakela na bolinga nona fulu Ya loko te koma nile inanga Ya lo biko mpea molino Nao, sempo na bolingo na yo mamae Bishu ya motema nanga shuza Sempo na yo nyonyo nanga Jabate umwana sila yeyeye
Suwa mamae Zakelengi atanzua kala
Julia sukia moto pendese kelilo kola munasi
C'était Julia de Luciana de Mingongo Luciana de Mingongo que Papa Wemba aimait appeler Rossignol c'est l'une des belles voix de la musique congolaise moderne qui a évolué dans l'orchestre Viva la Musica justement de Papa Wemba On revient à l'actualité cette semaine, le 27 janvier 2026 marque un an, jour pour jour, depuis l'occupation des Goma, chef-lieu du Nord Kivu, par la rébellion de la SCM-23, survenue le 27 janvier 2025. Un an plus tard, la ville demeure paralysée, ses habitants dispersés dans la précarité et l'incertitude, selon des témoignages unanimes. L'aéroport international reste fermé, les banques et coopératives à l'arrêt, aggravant ainsi une crise aux répercussions profondes sur les plans socio-économiques, humanitaires et sécuritaires. Les populations subissent une détérioration continue de leurs conditions de vie entre pénurie et insécurité persistante. Malgré les initiatives régionales et internationales, les négociations piétinent, incapables de restaurer une paix durable dans l'Est de la RDC. Hubert Leclerc, vous êtes journaliste au journal La Libre Belgique. Vous avez souhaité, n'est-ce pas, nous parler de l'an 1 de l'occupation de la ville de Goma par la rébellion de l'FCM-23. On vous écoute.
Oui, en fait, je souhaitais, parce que je reviens de là, donc je suis passé par Uvira, Bukavu et Goma, il y a depuis, je dirais, 2 semaines de cela. Donc j'ai vu de mes yeux ce que j'ai vu, donc c'était pas la première fois que j'y allais, j'y étais déjà allé l'année dernière dans le premier semestre 2025, donc tout au début de la chute de Goma et de Bukavu. Alors c'est pas la vie n'est pas facile, les prix sont élevés. Comme vous le disiez, la fermeture des aéroports est un vrai souci. Ce qui est un vrai souci aussi, c'est la hausse des prix de manière générale, puisque il y a moins de production agricole dans la région, donc beaucoup de choses sont importées. Par contre, en discutant avec les gens, alors évidemment, je sais très bien que bon, je ne passe pas inaperçu quand je vais sur place. Mais j'ai pu me balader dans les deux villes sans le moindre souci. Ce qui frappe, c'est la facilité avec laquelle on se déplace. Je me souviens des embouteillages que j'ai connus, notamment à Bukavu, qui n'avaient rien à voir évidemment avec les embouteillages de Kinshasa. Mais aujourd'hui, la situation s'est améliorée. Ce que les gens disent, c'est que, évidemment, ils ont tous peur d'un retour de la guerre, que ce soit à Bukavu, que ce soit à Goma, peut-être encore plus à Bukavu avec ce qui s'est passé à Uvira ces derniers jours. Donc là, on sent qu'il y a une vraie appréhension. Mais ce qu'ils disent aussi, et ça rejoint le premier point qu'on avait évoqué sur la problématique de la corruption et ainsi de suite, c'est qu'aujourd'hui, toutes les fameuses tracasseries ont disparu. Et pour avoir circulé dans les villes, on n'a pas dû sortir une seule fois un billet de 100 ou une liasse de billets de 100. On n'a jamais été importuné par des gens. Je suis allé avec un ami qui a des petites affaires, enfin qui est un homme d'affaires à Bukavu. On devait retirer un document à l'administration. Et ce qui a vraiment marqué, c'est les tarifs sont affichés. Les gens respectent les tarifs. Il y a très peu de files, il n'y a pas de discussion. Et ça, c'est une aide précieuse, évidemment, pour les habitants du coin. Donc, c'est un bilan contrasté, qui est loin de l'image que l'on donne en général de pays en guerre, de zones ravagées. Beaucoup de personnes sont revenues dans les villes, que ce soit à Goma ou à Bukavu, dans la campagne environnante. C'est un peu plus compliqué, aussi parce qu'il y a toujours des combats, il y a toujours des passages de drones, ainsi de suite, comme on a pu le voir au début d'année dans le Massissi notamment. Et donc, c'est un peu plus compliqué, mais dans les villes, et je me souviens d'avoir pris le navire, le bateau express pour relier les deux villes. Et là, on voit que l'année dernière, il n'y avait personne quand j'ai pris le bateau début mars, un peu de temps après la chute de Bukavu. Aujourd'hui, le commerce a repris. Alors, c'est pas ce qu'on a connu il y a quelques années, mais je dirais que c'est contrasté. Et vraiment, ce qui peine les gens sur place, c'est de se dire, c'est l'insécurité, l'inconstance, le risque qu'un jour, cette guerre revienne. Voilà.
Mais au-delà de ce que vous avez vu là, il y a des problèmes socio-économiques qui se posent parce que les gens ne peuvent pas accéder, n'est-ce pas, à leur argent parce que les banques sont fermées, les coopératives ne fonctionnent pas.
Absolument.
Et donc ça, c'est un problème réel, un problème qui demeure, n'est-ce pas?
Bien sûr. Ça, c'est ce que j'ai dit tout au début de mon intervention. C'est vrai que la fermeture des banques pose un vrai problème. C'est une manière de piquer, évidemment, sur ces régions. Tous les opérateurs économiques aujourd'hui ont quasiment ouvert un compte en banque de l'autre côté de la frontière. Donc évidemment, ça fait aussi le jeu des voisins, enfin du voisin, notamment à Goma, évidemment, ou même à Bukavu, il suffit de traverser la frontière. Toutes les banques rwandaises ont une succursale là aujourd'hui. Et évidemment, tous ceux qui ont des petites affaires ou des petites ou des grosses affaires au Congo ont leur compte en banque désormais au Rwanda. S'ils ont besoin de cash, c'est là-bas qu'ils vont aller chercher, parce qu'au Congo, c'est évidemment impossible. Tous les distributeurs sont à l'arrêt. Alors, il y a des systèmes de cash express qui se sont installés dans certaines rues à Goma et à Bukavu, où il est possible de retirer un peu de cash de certains de ces comptes congolais. Mais c'est vrai que ça, c'est comme je vous le disais, c'est un des gros problèmes. Idem pour la fermeture des aéroports, qui oblige les gens aussi à beaucoup de contorsions. Certains accès routiers aussi, comme la fermeture de la frontière avec le Burundi, qui entrave évidemment la circulation et le commerce transfrontalier. Donc il y a encore, entendons-nous bien, il y a encore des tas de problèmes, et le quotidien n'est pas facile.
Merci.
C'est pour ça que je disais, il faut essayer de voir les choses et dire, ça c'est compliqué, mais par contre, comme je vous le disais, en termes de sécurité, en termes d'absence de tracasserie, là c'est quelque chose qui est vraiment marquant.
Merci, Madame Bernadette Kamango. Vous êtes journaliste indépendante, vous êtes défenseuse des droits des femmes et également autrice d'ouvrages sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Au-delà de ce tableau que vient de nous peindre Hubert Leclercq, est-ce qu'on peut espérer qu'on ne va pas commémorer le deuxième anniversaire de l'occupation de la ville de Goma par la rébellion? Est-ce qu'on peut espérer qu'avant le 27 janvier 2027, la ville de Goma sera libérée?
Oui, d'abord pour réagir au témoignage que
Hubert
vient de nous donner ici. Donc je l'ai suivi vraiment d'une oreille attentive. Et je me suis demandé, comme il dit qu'il y a quand même, on peut dire que les gens circulent, il y a une certaine vie qui est là-bas. Pour moi, je pense que la population s'est résignée à la condition qu'on leur a imposée là-bas. Parce que ils se sont dit, les choses sont telles quelles, on doit vivre, on doit manger,
on doit s'adapter.
Mais effectivement, heureusement qu'il le souligne, c'est qu'il y a quand même cette crainte-là que d'un jour ou l'autre, ça puisse encore barder et puis il retourne encore dans cette condition-là de fuite à gauche et à droite. Donc je pense que c'est vrai que la situation tient quand même sur un fil. Et la population s'est plutôt résignée parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de problèmes, surtout sur le plan socio-économique. Toutes les structures étatiques ont dû fermer et puis les animateurs de toutes ces structures ont dû fuir la ville. Beaucoup sont ici à Kinshasa, je les rencontre ici, ceux qui viennent plutôt à Kinshasa. Dernièrement encore, j'ai eu une personne qui m'a dit qu'il a dû fuir Goma tout simplement parce qu'on le poursuivait. Donc sur le plan sécuritaire, peut-être qu'il y a moins de coups de feu, si je peux dire. Hein, mais sur le plan peut-être sécuritaire comme tel, il y a encore beaucoup de personnes qui se sentent vraiment en danger. Par rapport à la question,
Est-ce qu'on peut espérer qu'avant le 27 janvier 2027, et notre ville, la ville de Goma, sera déjà libérée?
Et ça, c'est le souhait de tout le monde. D'abord, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse arriver en 2026 dans ces conditions-là. C'est vraiment une chose auquel je pense qu'aucun Congolais ne s'y attendait. Mais c'est arrivé, on est là, donc les choses sont telles qu'elles sont, avec les accords qui se débattent à gauche et à droite. C'est vrai que ce sont des négociations à pouvoir encourager, mais dire 2027, en tout cas, c'est ce qu'on ne souhaite pas du tout. Le seul mot, je peux dire, le mot d'ordre que la population voudrait entendre, c'est celui que le retour à la paix, coûte, que la paix revienne et que les armes puissent se taire. Et j'entendais même quelques habitants de Goma qui disaient que la paix vienne par voie de dialogue, que la paix vienne par voie d'armes. Nous, notre seul souci, c'est la paix. Effectivement, tout ce qui se passe à Goma a un impact sur toute la RDC, parce que quand l'aéroport est fermé, moi je sais que l'aéroport c'était une voie, disons, économique pour beaucoup. Beaucoup vivaient de ce qui se passait à l'aéroport. Par exemple, on avait notre fameux Maziwa, le fromage de Goma que nous n'avons plus, et bon, c'est seulement pour citer ça. Mais en dehors de ça, il y avait beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de commerçants qui s'étaient installés, qui avaient vraiment leur business là-bas et qui ont dû fuir la ville du jour au lendemain. Donc il n'y a que le seul mot d'ordre que la population voudrait entendre, quelles que soient les conditions, que ce soit dialogue ou par les armes, c'est le retour à la paix.
Merci, Dieudonné Mouchagaloussa, coordonnateur national du panel des experts de la société civile et porte-parole du consortium des ONG des droits de l'homme en RDC. Quelles leçons peut-on tirer de ce premier anniversaire de l'occupation de la ville de Goma par la rébellion?
Bon, je pense que personnellement, je suis très ravi d'entendre quelqu'un qui a été sur le terrain et qui nous fait un témoignage avec ce tableau qu'il vient de peindre, des côtés, des éléments positifs, et notamment ce qu'il venait de citer. Mais de l'autre, il y a ces regrets, il y a ces secteurs basiques de la population qui ne sont pas pris en charge. Et donc, je pense qu'il faut tenir en compte autant de facteurs, notamment ceux qui sont sur place, ceux qui font l'administration, ceux qui ont le pouvoir sur place. Je pense que tout ce qu'il vient de décrire comme facilité en termes d'obtention des documents, en termes de moyens de tracasserie, en termes de propriété, même puisqu'on apprend qu'il y a les salongos qui se fait là, contrairement ici à Kinshasa. Donc, il faut saluer cela. Et je pense que cela se justifie du fait que ceux qui ont occupé ou ceux qui ont libéré, ça dépend d'un concept à un autre, ou ça dépend d'un acteur à un autre, ou ça dépend de la perception de chacun de nous. Donc, ils veulent bénéficier de la confiance, ils veulent se faire populaire, ils veulent caresser la population, raison pour laquelle ils mettent de l'ordre, parce que ils pensent que si nous ne mettons pas de l'ordre, nous n'allons pas être accepté par la population. Et donc ça se justifie d'un côté. De l'autre côté, il faut regretter finalement que la population, j'ai compati vraiment avec la population du Sud Kivu et du Nord Kivu, elle est victime de plusieurs éléments. Notamment, la population n'a pas voulu être occupée par l'AFCM-23, quand bien même il y aurait certains leaders, certaines personnes, des individus qui pouvaient ou qui ont adhéré à l'AFCM-23 aujourd'hui. C'est sur le plan individuel, mais sur le plan collectif, on comprend que la population attend toujours beaucoup de choses du gouvernement central. Malheureusement, hélas, le gouvernement central ne fait pas d'efforts pour continuer à solidariser, pour continuer à être proche avec cette population du Sud Kivu, du Nord Kivu, qui est maintenant doublement victime de la guerre, mais aussi de la...
Qu'est-ce que le gouvernement central devrait faire?
Nous l'avions interpellé comme collectif, comme au niveau des organisations des droits de l'homme, et même le panel des experts de la société civile, nous avions écrit, nous avions pris le courage de dire qu'on a abandonné la population qui devrait être payée par le gouvernement central, les fonctionnaires de l'État, les banques qui ne fonctionnent pas. La population en souffre. Qu'est-ce que la population a à faire avec les hautes autorités de l'AFCM-23, en ne donnant pas les salaires aux fonctionnaires de l'État, en fermant les banques? Ça fait quoi aux autorités de l'AFCM-23? Ils vont continuer à rouler carrosse, ils vont continuer à voir l'argent qu'ils ont des mines, ils vont continuer à embrasser tout l'argent qu'il faut par rapport à la guerre, et lorsque vous voyez des images, les cortèges qu'ils ont, ce sont des cylindrés de haut niveau, et donc la population est victime, et nous profitons de cette occasion, de ces micros et surtout de l'audimat de Radio Okapi et de sa neutralité pour qu'on puisse demander au gouvernement de ne pas abandonner la population. Donc, le gouvernement central balkanise sur le plan économique, sur le plan administratif et sur tous les autres aspects, la partie-là. Et donc, il est important que le gouvernement puisse compatir avec la population du Nord et du Sud Kivu, mais également J'en profite pour demander aux uns et aux autres, dans le cadre des négociations, certainement qu'on va en parler dans le deuxième chapitre, pour qu'on puisse ouvrir l'aéroport de Goma, rien que pour des besoins humanitaires. Donc, que ce soit les autorités de l'AFC M23, que ce soit le gouvernement central, ils devraient se convenir sur les modalités et il est possible de pouvoir avoir un couloir humanitaire parce que la population souffre effectivement, comme venait de le dire ma sœur Bernadette. Donc, l'aéroport est très important que ça puisse être ouvert pour permettre rien que le couloir humanitaire en attendant qu'on puisse discuter, se mettre d'accord sur d'autres éléments. Et le gouverneur de la Banque Centrale, j'espère qu'il nous écoutera, qu'il puisse revoir ce système-là de pénaliser la population. Et donc, il faut qu'on puisse payer, il faut qu'on puisse ouvrir les banques.
Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. Le lundi 12 janvier, c'était la date anniversaire de Didier Massella Ndoudi, connu sous le nom de Didier Massella. C'est guitariste, bassiste, auteur, compositeur congolais qui est le fondateur, n'est-ce pas, de l'orchestre Wenge Musica. À l'occasion de cet anniversaire, nous allons écouter l'une de ses compositions intitulée Etepe Bwengo dans l'orchestre Wenge Musica et on revient juste après.
Ma mwanga y motondina ngele tingi présence ite pebrigo pote na vika stiku mendele yone na kolera toka na nambo ya ebale memeni ya kampelo pote mpepe ya mape yote oh ite pebrigo na kobala e kula ya
Je nomme confirmé la royaume de Belgique. Complice ma danse, il osait ma vie à Jukando. Dilander, Antonio Massella, bienvenue mon bando. Bookson Bukasa, na Canada.
Oh, et c'est pas moi, na Kodama, et Moula et ma banga, l'Opola, na Tango, et Noé. Moula et ma banga, l'Opola, na Tango, et Jato. Et ton lisa et balé.
Yeah, we're my boy, and I'm
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur la fête de la semaine. Je rappelle que chaque vendredi à partir de 21h heure de Kinshasa et samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa également, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la fête de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de la conférence sur les investissements en RDC. Nous avons également analysé l'an 1 de l'occupation de la ville de Goma par la rébellion de la FC M23. Participe à cette émission, Dieudonné Mouchagaloussa, il est coordonnateur national du panel des experts de la société civile et porte-parole du consortium des ONG des droits de l'homme en RDC. Madame Bernadette Kamango, elle est journaliste indépendante, elle est défenseuse des droits des femmes, elle est également autrice d'ouvrages sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Hubert Leclerc, il est journaliste au journal La Libre de Belgique. Jason Life Isolena, élève de la 6e littéraire au complexe scolaire Ange Raphaël Dengiringiri, a été lâchement assassiné le lundi 26 janvier 2026 par ses collègues à quelques mètres de son établissement sur fond des harcèlements et des vengeances. Selon des témoignages sur place, les différends à l'origine de ces drames seraient liés à une dispute sentimentale entre les deux adolescents. La victime s'était interposée pour défendre sa petite sœur harcelée par un élève de la 4e humanité de la même école. Si la situation semblait s'être apaisée, l'agresseur nourrissait en secret une rancœur tenace. Lundi, le 19 janvier 2026, vers 17h, alors que Jason regagnait son domicile après les cours, il est tombé dans une embuscade. L'agresseur, accompagné d'un groupe de délinquants, a intercepté les jeunes finalistes à peine à 100 mètres de l'école. C'est avec une baïonnette que l'assassin a porté les coups fatals. Jason a reçu 3 coups de couteau, dont 2 ont perforé son poumon gauche et son épaule. Ses camarades de classe, témoins de la perte d'un ami cher, sont aujourd'hui plongés dans un traumatisme profond. Madame Bernadette Kamango, vous avez souhaité nous parler de cette tragédie à Ngiringiri où plusieurs personnes ont été interpellées après l'assassinat par arme blanche d'un élève de 16 ans de l'école Ange Raphaël. On vous écoute.
Oui, tout d'abord, je présente mes condoléances à la famille qui vient de perdre un enfant de 16 ans. C'est pas du tout facile. Je vois déjà la maman, donc je me mets déjà à sa place. C'est très regrettable et de plus en plus, on a l'impression que la violence s'installe dans nos écoles parce que c'est pas le premier cas. Je pense l'année passée, toujours au début de l'année, il y a eu 2 cas un peu de ce genre.
Notamment à l'école Sévigné.
Voilà, à l'école Sévigné, où c'était un enfant de 12 ans, je crois, qui a poignardé son collègue, son camarade de classe. Et tout ça, ça tourne autour d'un phénomène de harcèlement scolaire. Malheureusement, ici encore au Congo, j'ai l'impression que la violence au niveau de l'école n'est pas encore un débat. Nous, on sait que on nous a du moins appris que l'éducation d'un enfant s'effectue à 4 niveaux. J'ai plutôt ajouté un 4e niveau, mais c'est surtout 3 niveaux. D'abord au niveau de la famille avec la cellule familiale, à l'école. Et puis, malheureusement, il y a aussi l'éducation diffuse que l'enfant ramasse dans la rue. Nos familles congolaises actuellement, je peux dire que le tissu de l'éducation familiale a été déstabilisé, je pense, depuis une trentaine d'années. D'abord, ça a commencé avec les pillages de l'époque des années 90. Donc, tellement il y a eu le pillage sur toutes les usines, et ça a touché les circuits professionnels. Les parents se sont retrouvés au chômage. Après ça, il y a les guerres qu'on nous impose jusqu'à présent aussi depuis plus de 30 ans. Et tout ça déstabilise aussi le secteur éducationnel. Parce que je me souviens aussi, en ce qui concerne le milieu scolaire, il y a eu, je crois encore, pendant la période de Mobutu, peut-être que Dieudonné pourra me rappeler, où les parents ont dû maintenant supporter le paiement des enseignants. Au lieu que ce soit l'État qui paye les enseignants. Donc, il y a eu cette rupture-là. Et à partir de là, on a assisté à l'éclosion des écoles privées à gauche et à droite. Et on sait que dans les écoles privées, c'est d'abord l'argent qui compte. Et le professeur n'a pratiquement presque rien à dire devant un parent ou bien un élève qui a de l'argent. Même l'élève à l'école, vous le verrez même aller jusqu'à corrompre les professeurs. Même les filles, corrompent le professeur. Donc j'ai eu beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Et dans les écoles, vous assistez à certains phénomènes comme les points sexuellement transmissibles, comme, je ne sais pas, les phénomènes peut-être kofia, donc un garçon qui se fait le petit de confiance d'un professeur pour qu'il aille lui attraper des filles. Donc le tissu scolaire est vraiment de plus en plus en train de dégringoler. Et même actuellement, si vous voyez la population congolaise, donc quand vous êtes en face de quelqu'un avec qui vous voulez discuter, la façon dont il va vous parler, c'est seulement avec la violence. Donc il n'y a plus, je ne sais pas ce qui se passe, mais il a vraiment l'éducation.
Justement, comment vous expliquez le fait que cette violence est en train, n'est-ce pas, de s'installer en sourdine dans nos écoles? Comment vous expliquez cela?
Bon, c'est comme je suis en train de le dire, le tissu scolaire s'est détruit déjà à partir de l'époque du régime de Mobutu, quand les parents ont dû prendre la responsabilité des frais de paiement des enseignants. Déjà, à partir de là, c'est l'argent qui marche, c'est l'argent qui parle. Donc le parent qui a le plus d'argent, c'est celui qui a le pouvoir sur comment faire passer son enfant d'une classe à une autre. Or, moi, je me souviens à l'époque, quand vous échouez, vous reprenez la classe. Je ne sais pas si actuellement, dans les écoles, on parle encore des élèves qui reprennent la classe. Tout le monde doit passer.
Cet unique facteur peut expliquer cette violence?
Oui, ça peut expliquer cette violence parce que maintenant, on sent que même au sein de l'école, les enseignants ne sont plus là pour encadrer les enfants, leur donner des conseils. Je ne sais même plus si le cours de morale ou de civisme, tout ça, si ça existe encore. Même au niveau des enseignants, vous sentez qu'il y a le laisser-aller. Donc il n'y a pas vraiment cette rigueur que nous on a eu pendant l'éducation scolaire que nous on a suivie. Et non seulement ça, s'ajoute encore aussi l'éducation diffuse que l'enfant ramasse dans la rue. Par exemple, circuler un peu à Kinshasa, tous les 1 mètre vous voyez ce qu'on appelle là, le zodo de les boissons frelatées, que l'on vend donc au vu et au su de tout le monde. Et c'est, je crois que ça coûte 500 francs, quelque chose comme ça. Et vous verrez, moi je vois même des petits-enfants prendre une bouteille, peut-être il peut ramasser le fond de la bouteille, il essaye de goûter ça. Et puis il y a la drogue qui circule. Et moi je me souviens à notre époque, quand on grandissait dans une famille, si on entendait qu'il y avait un enfant qui se droguait, mais c'était grave, c'était scandaleux. Or aujourd'hui on pense que les choses sont devenues normales. En fait la violence s'est banalisée, et il faut dire aussi par rapport à tout ce qui se passe dans le pays, comme on est dans un pays où il y a le conflit armé, ça impacte aussi un peu sur l'éducation. Vous voyez même les programmes à la télévision, sur les médias, qu'est-ce que nous passons comme dessins animés? Ce sont des dessins animés qui ne présentent que la violence. Nous, on était dans les Cendrillons, les Blanche-Neige, les Bugs Bunny. Mais actuellement, tous les programmes qu'on présente aux enfants, c'est la violence. Et maintenant, cette violence-là, comme l'enfant imite ce que les adultes font, donc maintenant, de manière peut-être inconsciente, l'enfant répète exactement ce qu'il voit de la part des adultes.
Merci. Merci, Dieudonné Mouchagaloussa. Justement, comment vous réagissez à ce phénomène de violence que l'on constate de plus en plus dans les écoles de nos enfants?
Bon, je pense qu'il y a 2 facteurs, comme venait de le dire ma sœur Bernadette. Il y a les facteurs liés à l'éducation au niveau de la famille, mais il y a aussi les facteurs liés à la prise en charge des enseignants, mais il y a également l'abandon de l'enseignement par l'État qui devrait assumer son rôle par rapport à tout ce qui se passe, par rapport au programme, par rapport à la surveillance. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore des écoles qui reçoivent des inspecteurs, comme nous quand on étudiait, lorsqu'on apprenait qu'un inspecteur va venir, c'est toute l'école qui était mobilisée, les élèves, les enfants, les parents même, on se préparait au garde-vous. Et donc, mais il y a également, je crois que la société également aujourd'hui, on est de plus en plus dans une situation où on n'a plus de solidarité, où on n'enseigne plus l'amour envers les prochains, où l'éducation, les cours de civisme également a baissé. Et donc je crois qu'il est important que les parents également puissent fournir un effort d'un côté, mais également que l'État congolais puisse revoir les programmes, parce que je pense que les réformes qui ont déjà été faites en termes d'amélioration des conditions de vie de l'enseignement, en termes de programmes, n'ont pas ou ne répondent pas jusqu'à ce jour à la réalité et aux besoins réels, parce que il y a le modernisme, effectivement, il y a des films que les enfants suivent, quand ils suivent des catchs, quand ils suivent tout ça, à notre époque, on ne suivait pas ça comme on venait de le dire. Donc, il y a également des réseaux sociaux. Donc, il va falloir que l'État congolais puisse réfléchir sur des réformes profonde en intégrant la question d'éthique, la question morale dans l'enseignement, la question de civisme, mais également qu'on puisse interpeller les parents de l'autre côté. Mais en toile de fond, il faudrait également que la justice puisse faire son travail. Parce que lorsqu'il y a des cas pareils, certes, ce sont des forfaits commis par des mineurs, mais il faut que les gens puissent être conscients que dès qu'il y a un forfait qui est commis, il y aura des sanctions à la hauteur des forfaits commis et conformément aux instruments juridiques, parce que aujourd'hui même les enfants de Koulouna, ils font des histoires et après 3-4 jours, après 2-3 semaines, on les revoit. Et donc il y a toute cette problématique-là, il y a cet ensemble des faits, il y a cet ensemble des réalités, il y a cet ensemble des manques d'ajustement qu'il faut prendre en compte. Et il est important que la société puisse y mettre, parce que c'est douloureux, c'est amer, c'est regrettable qu'on puisse perdre un enfant à cet âge-là par ses collègues.
Merci, Hubert Leclerc. Même dans les pays occidentaux, cette violence à l'école est une réalité. Mais est-ce que les niveaux que nous avons atteints à l'RDC, est-ce que ces niveaux ont été atteints dans les pays comme la Belgique d'où vous intervenez?
En écoutant mes confrères, j'avais le sentiment qu'on n'était pas tout à fait à ce niveau-là en Belgique. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis parfois avec des fusillades, des tueries et tout ça, on a l'impression qu'on est un petit peu épargné en Belgique. Mais ce qui est vrai, le constat qui est vrai, le constat qui a été fait par mes confrères, c'est de dire qu'on a quand même le sentiment qu'aujourd'hui, il y a un petit peu une faillite des parents par rapport aux enfants. Il y a aussi une faillite de l'État qui désinvestit dans l'enseignement, alors que c'est évidemment un des éléments essentiels pour une société qui se veut responsable. Et tout ça, je pense qu'on en paye des conséquences aujourd'hui. Alors si vous ajoutez évidemment les réseaux sociaux, toute cette violence qui est transmise au quotidien, ces images qui affluent sans arrêt sur tous les écrans du monde, et ça je pense que on n'est pas mieux loti ni ici ni chez vous par rapport à ça. Et donc on est face à une situation qui devient de plus en plus explosive. Et je pense vraiment qu'à la fois les parents doivent faire un effort, mais que l'État doit aussi comprendre qu'il doit réinvestir dans l'enseignement, qu'il faut évidemment responsabiliser les enseignants, et que pour responsabiliser les enseignants, il faut aussi que leur salaire suive, il faut aussi qu'ils soient fiers de leur métier, et qu'ils se disent « je vais prendre des risques pour quelques centaines de francs, est-ce que ça en vaut bien la peine ?» Donc je pense qu'il est vraiment plus que temps de réfléchir et d'oser poser des vraies questions dans ce domaine.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Mwana Kimi Kelasi de Matulu Papitex dans l'orchestre Empire Bakuba et on se retrouve juste après.
Thank you. no mwana
mwana kimikela tio
yoka tolia kateni
mwana kimikela tio
maomba keni kala muri
mwana kimikela tio
mama bula bula lobi
mwana kimikela tio
tango mbule kostila e yo la nina yo ambiase oya kokota baposi profeseur alinga kayote
mwana kimikela tio
yoka tolia kwebe kipele
mwana kimikela tio
tolia leki na chibui
mwana kimikela tio
tolia manonga na boloa
mwana kimikela tio.
C'est Mwana Kimikela Tio de Papistex dans l'orchestre Empire Bakuba, un orchestre composé d'un trio à savoir Kabastele Ampanya Pepe Kale, Matulu Dodé Papistex et Dilou Dilou Mona. Je rappelle que nous avons dans cette émission Dieudonné Mouchagaloussa, il est coordonnateur national du panel des experts de la société civile et porte-parole du consortium des ONG des droits de l'homme en RDC. Madame Bernadette Kamango, elle est journaliste indépendante, elle est défenseuse des droits des femmes, elle est également autrice d'ouvrages sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Hubert Leclerc, elle est journaliste au journal La Libre Belgique. L'ASBL, le projet des sociétés a mené entre septembre et novembre 2025 un vaste sondage citoyen auprès de plus de 10 000 Congolais issus de diverses villes et catégories sociales. L'objectif, mesurer la perception de la population sur la nécessité d'un dialogue national pour la paix en RDC. Les résultats sont sans appel. 74,17% des personnes interrogées jugent urgent et indispensable l'organisation d'un dialogue national inclusif. Pour la majorité des gens, cette démarche apparaît comme la voie la plus crédible pour répondre à l'insécurité, restaurer la cohésion nationale et améliorer les conditions socio-économiques. Dieudonné Mouchagaloussa, vous avez souhaité nous parler du dialogue comme voie royale pour la résolution de la crise en RDC. On vous écoute.
Oui, merci beaucoup Guy. Et donc, je voulais rappeler que le panel des experts de la société civile était la première organisation, pour ne pas parler de moi-même, lorsque, après les élections qui ont eu lieu dans ce pays et tout ce qui s'en est suivi, nous avions proposé que, à ce moment-là, on n'avait même pas encore pris Goma, avant que même l'honorable Vital Kamerhe propose le dialogue en triangle. Nous avions proposé à l'époque un dialogue en spirale. Le dialogue en spirale prenait la communauté internationale au niveau régional et au niveau interne. Aujourd'hui, l'histoire est en train de nous donner raison. D'autant plus qu'il faut prendre en compte, je crois, trois éléments principaux. Le premier, c'est que les gens n'étudient pas tellement quelle est l'histoire de ces pays, quelle est l'âme de la RDC. Dans plusieurs pays, j'en profite pour saluer une fois de plus mon frère Hubert qui est à Bruxelles et tous ceux qui sont de l'autre côté, il y a des pays qui ont des éléments positifs en termes de démocratie, en termes de liberté, en termes de guerre et tout ce qui peut en suivre. Mais la République démocratique du Congo, son âme se retrouve dans les dialogues, son âme se retrouve dans les conférences, son âme se retrouve dans les conciliabiles, s'il faut le dire ainsi. Et donc je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de pouvoir le dire, d'autant plus que en regardant dans l'histoire du pays, la RDC, pour que ce pays puisse exister, c'était quoi? C'était la conférence de Berlin en 1885. On n'a pas obtenu les frontières de notre pays par la guerre, mais les gens se sont mis ensemble. À ce moment-là, on a dessiné les frontières. Et donc, après cela, nous avons connu la crise liée à la colonisation de ces pays. Pour avoir l'indépendance, on n'a pas fait la guerre. C'était une crise. Et donc, comment est-ce qu'on a résolu ça? C'était la table ronde de Bruxelles. Après, on a connu la période de la dictature. Avant la dictature, d'abord, pour avoir les premiers outils, les premiers instruments, c'était la conférence de Luabourg pour avoir la loi fondamentale. Les gens ne se sont pas battus pour l'avoir. Troisième élément, lorsqu'il y a eu la crise avec la dictature mobutienne, qu'est-ce qui s'était passé? Il fallait faire la conférence nationale qui était devenue la conférence nationale souveraine. Les gens se sont retrouvés pour déclarer le multipartisme arrivé à la démocratie. Évidemment, nonobstant que Moussa Laura Désiré Kabila venait avec la guerre pour balayer la dictature mobutienne, mais on a connu une crise qui a failli déchirer ce pays et qui l'avait d'ailleurs déchiré en quatre républicaines où on avait la partie contrôlée par les RCD, par les MLC, par les gouvernements et les RCDN. pour reconstruire, pour réunifier les pays. Qu'est-ce qu'on avait fait? On est parti à San City. Je suis témoin vivant puisque j'ai été au dialogue intercongolais, tout jeune, alors comme expert de la société civile en 2001. Et donc, voilà autant d'éléments.
Justement, Dieudonné, les personnes qui semblent s'opposer au dialogue se rappellent justement de cette histoire que vous venez de raconter ici, que les pays ont connu plusieurs dialogues, mais qui n'ont abouti à rien parce que ces dialogues n'ont pas aidé les pays à mettre fin à ce cycle de violence.
Non, malheureusement, il ne faut pas avoir peur de les dire ou honte de les dire. Chaque existence, les pays existent. Donc, à un moment donné, on connaît des crises. Même l'être humain, à un moment donné, il y a des crises qui arrivent. Quelle est la voie royale pour résorber cette crise-là? Il faut puiser dans l'histoire. Et maintenant, comme vous venez de le dire, et il y a déjà en tête qu'on a déjà eu beaucoup de dialogues et tout ça, maintenant, il faudra faire de nouveau un dialogue qui va jeter maintenant les bases solides pour que les causes, les éléments qui font qu'on puisse avoir ces crises-là ne puissent plus venir. Ça, c'était le premier élément en termes de rappel historique. Le deuxième élément, il s'agit de faits réels sur terrain. Et les nombreux auditeurs le savent et les voient et nous sommes en train de les subir. Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de Bernadette, ça ne dépend pas de mon frère Hubert. Mais la réalité, elle est là. Goma est occupée pendant une année. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit continuer à sacrifier la population? On doit continuer à ne pas mettre en place un mécanisme qui va permettre de restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce qu'on va balkaniser les pays? Je ne pense pas. Et donc, il est important, au regard de la misère, au regard de la souffrance, au regard des nombres de morts, au regard des dégâts qu'on continue à subir, au regard des conséquences qui sont en train de subir la population qui se trouve dans cette partie-là, mais également le fait que psychologiquement, les Congolais sont liés les uns et les autres dans l'unité du pays, parce que moi, je suis de ceux qui pensent, et je suis parmi les personnes qui combattent par la plus grande force la balkanisation du pays, et je pense qu'elle n'aura jamais lieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, pour nous, nous avions proposé à l'époque qu'il faut un dialogue, peu importe comment on va, c'est ce qu'on va l'appeler, qui va permettre de réunir les quatre composantes, qu'on les veuille ou pas, c'est incontournable.
Quelles sont ces composantes?
Il faut prendre l'union sacrée qui est représentée par la majorité présidentielle, il faut prendre l'opposition non armée avec tous ceux que nous avons comme Moïse Katumbi, comme Fayulu, Matata et tous les autres, Sesanga et tous les autres. Donc l'opposition, ça va faire la deuxième composante. La quatrième composante, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, la communauté internationale, ce n'est pas moi qui l'ai dit, et je pense que les services savent déjà, il y a autant de communiqués, il faut prendre la réalité de l'AFC M23, qui est aussi une force en présence, parce que c'est la réalité que nous vivons, et enfin, en toile de fond, ou quatrième composante, il faut la société civile comme force tampon, et d'ailleurs, aujourd'hui, dans toutes les négociations, vous suivez comment est-ce que la communauté internationale s'interroge, pourquoi on n'associe pas la société civile dans tout ce qui est en train d'être fait, puisque les politiques, à un moment donné, ils peuvent voir leurs intérêts. Qui va représenter? Qui va parler au nom de la population? Qui va interpeller les uns les autres? D'autant plus que ceux qui sont à Goma, ils se sentent déjà dans une république, ils sont à l'aise. Je venais de le dire en prélude de cette émission.
Ils sont à l'aise? Vous pensez qu'ils sont à l'aise?
Je pense qu'ils sont à l'aise lorsqu'on les voit, comment est-ce qu'ils roulent dans des carrosses.
Ceux qui tiennent, ceux qui contrôlent la
ceux qui contrôlent le Goma, la voilà. Ville. Donc, ils ont des véhicules, ils ont la signature, ils ont tout. Donc, à un moment donné, ils sont réconfortés.
Merci.
Ceux qui sont de l'autre côté ici, donc, il va falloir que la population, la société civile puisse faire pression sur les uns et les autres et faire un lobbying au niveau de la communauté internationale pour qu'on puisse y en arriver. Et maintenant, en un mot, s'agissant de la médiation, nous sommes parmi les gens qui ont crié. Certainement, nous ne pouvons plus rien faire parce que l'Union africaine a désigné le président togolais à qui nous souhaitons la bonne chance. Il y a le président angolais qui fait beaucoup d'efforts. Mais nous, au niveau du panel, nous avions crié que le président d'en face, Denis Sassou Nguesso, pouvait faire un bon médiateur. Il connaît bien les réalités congolaises en termes de vécu culturel, en termes des hommes politiques, en termes de mentalité, en termes de collisions. Donc, Denis Sassou Nguesso pouvait faire un bon médiateur. Il est le doyen et donc nous pensons que effectivement le dialogue il est incontournable, d'autant plus que le sang coule de plus en plus.
Merci.
Il faut qu'on arrête cette description, il faut qu'on arrête cette misère et tout ce qui est en train de subir comme perte en vie humaine.
Merci Madame Bernadette Kamango. Comment vous réagissez, n'est-ce pas, à cette idée que vient de défendre Dieudonné Mushagalusa, qui pense que le dialogue est une voie royale pour sortir de la crise dans laquelle nous nous trouvons?
Bon, je pense d'abord que le dialogue, effectivement, c'est une voie qu'on peut dire royale, parce que le Congolais est africain, on est en Afrique, et l'âme de la tradition africaine, c'est de se retrouver autour de l'arbre à palabre. Et c'est autour de l'arbre à palabre où, dans le village, on essaye de savoir pourquoi est-ce qu'il y a un mal qui se passe dans le village, qui est le sorcier du village. C'est là-bas où on règle tout, on essaye de discuter autour des problèmes qui se passent au niveau du village. Pourquoi dans telle maison il y a ceci, pourquoi ceci, cela. Et c'est là-bas, avec les sages du village, avec peut-être les différents acteurs qui sont peut-être en conflit, où on essaye de s'asseoir et de trouver des solutions.
Mais vous avez suivi la question que j'ai posée à M. Kaloussa. Aujourd'hui, il y a des gens qui, quand ils se rappellent cette expérience que nous avons connue avec les différents dialogues, ils estiment que les dialogues ne vont pas nous aider à sortir de la crise.
Bon, je pense que les dialogues que Dieudonné a essayé de nous rappeler se sont d'abord effectués selon le contexte de l'époque. Chaque dialogue répondait par rapport à un contexte. Et je peux dire que les dialogues qui ont eu cours avant Sun City, c'était pas des dialogues pour justement régler des conflits armés. C'est Sun City qui a beaucoup plus été autour d'un conflit armé. Maintenant, aujourd'hui, nous nous retrouvons toujours dans ces conflits armés. C'est que peut-être au niveau de ceux qui s'est passé à Sun City, bon, les gens visaient beaucoup plus le partage des pouvoirs. Moi aussi, je suis vraiment de cet avis-là, que Sun City ne nous a pas apporté les réponses adéquates pour que nous ne puissions plus jamais parler guerre, viol, tout ce que vous voulez, en ce qui concerne la sécurité au niveau national. Moi, je pense qu'on devrait peut-être se baser sur la mauvaise expérience de Sun City, essayer de réadapter par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, et essayer justement de voir quelles sont les bases, ce qui n'a pas été à Sun City, et essayer de voir maintenant ce que nous pouvons faire justement pour que s'il y a dialogue, que ce soit un dialogue pérenne, dans lequel toutes les bases qui seront jetées soient des bases qui pourront faire qu'on ne puisse plus jamais parler guerre.
Merci Hubert Leclerc, nous allons terminer cette émission avec vous. Vous également, vous pensez que la résolution de la crise à laquelle nous faisons face depuis plusieurs années passerait nécessairement par la tenue d'un dialogue national inclusif?
Si on ne passe pas par un dialogue, on passe par quoi? Par la paix des armes? Non, c'est-à-dire qu'on va s'enfoncer dans la guerre? Non, je ne pense pas. Donc, je pense qu'un dialogue inclusif est nécessaire et plus qu'utile, c'est une nécessité si on veut un jour retourner vers quelque chose qui soit la paix, si on veut entendre toutes les positions qui sont aujourd'hui présentes en RDC. Et en effet, il faut absolument que ce soit inclusif, il faut la société civile, il faut l'opposition politique, il faut la majorité politique et évidemment, il faut aujourd'hui, on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe à l'Est. Donc il faut évidemment que le M23 soit autour de la table également. Et il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui puisse mener ce dialogue. Et ça, ça va être peut-être le plus compliqué à trouver. On a souvent eu l'Église catholique qui jouait ce rôle. On sait qu'aujourd'hui, les tensions sont puissantes entre l'Église catholique et le pouvoir en place. Mais si vous n'avez pas, qui va mener ce dialogue? Mais un, ce dialogue est nécessaire. Deux, il faut trouver une personne qui soit incontestable et qui soit entendue par tout le monde. Et je pense que c'est vraiment la seule voie possible et imaginable pour enfin avoir la paix dans votre beau pays.
Pouvoir. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Dieudonné Moussa Kaloussa, à Madame Bernadette Kamango, à Hubert Leclerc d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci également à Dieudonné Nyangasa avec l'assistance de Paul Wanyama qui est à la technique, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur les sites radiocapi.net. Nous allons nous séparer avec Krezwa Sengo, l'autre composition de Didier Masséla, toujours à l'occasion de l'anniversaire de sa naissance, et on se retrouve les années prochaines.
Je suis un peu plus de la vie. Bolingo ezali mbonge ya lamu, atalaka zuwa na lola mbona.